Ils écorent la chaîne de Buchenwald, épisode 4, l'icône pop, Alain Lefkovitch, Rafik Zenin.
Je n'avais pas l'intention de prendre la barre des témoins de nouveau, mais maintenant que la cour m'a déclaré coupable, je crois qu'il est de mon devoir de mentionner de nouveau les points suivants.
Ils écorent.
Après avoir témoigné le 10 juillet et clarifié tout ce qui devait être clarifié, à savoir la vérité, un article publié dans Newsweek vers la fin juillet a clairement établi que mes documents sont en possession du gouvernement militaire. Dans les albums dont je parle, les photos de ma maison ont été collées à plusieurs dates différentes. C'était de grandes photos de 18 sur 24 cm. Je pense qu'il serait chose facile de déterminer à partir de ces photos en quoi étaient faits ces abat-jours. Et puisque ces photos sont privées, celles publiées dans Newsweek, je sais qu'ils ont tous les albums. Il serait donc facile de déterminer si le témoin Frobos a dit la vérité sur la reliure de ces derniers. Ils n'ont pas été liés avec de la peau humaine, mais avec du cuir foncé. Mes témoins de la Défense ont toujours témoigné dans ce sens. Ensuite, je dois particulièrement faire une déclaration sur ces parties de l'article qui réfèrent à ma vie privée, parce qu'il n'est pas seulement question de moi, mais aussi de mes enfants. Je ne sais pas de qui ce reporter a reçu ces informations. À aucun moment il ne les a eues de moi. J'ai refusé de donner des informations sur ma vie privée à l'officier américain. Il dit, parmi d'autres choses, que j'ai admis. Ce n'est pas ma façon de parler, d'utiliser ce genre de mots. Je peux aussi prouver facilement que ceci est le mensonge le plus vulgaire que j'ai jamais lu me concernant dans un journal. Quant aux autres charges, je crois que j'ai oublié la chose suivante quand j'étais à la barre des témoins. J'ai été emprisonné pendant 16 mois. Quand il y a eu un procès contre mon mari. J'ai été acquittée. À ce moment-là, tous les prisonniers ont eu l'opportunité d'exercer des accusations à mon encontre. Ils auraient pu le faire si j'avais battu quelqu'un ou si j'avais pour quelque raison que ce soit dénoncé quelqu'un pour qu'il soit puni. Ça n'est pas arrivé. Et ce n'est pas vrai, comme a essayé de le montrer M. Denson lors de mon contre-interrogatoire, que les prisonniers auraient été punis pour de tels témoignages. Il a été prouvé par un témoin que des prisonniers ont été libérés parce qu'ils ont témoigné contre moi et mon mari. Concernant de nouveau cet article, je voudrais dire que ma position a toujours été de parler sans insulte au cours de ma vie. J'ai toujours fait mon devoir dans mon travail professionnel et je n'ai jamais rien fait d'irresponsable ou de mauvais en tant que femme ou mère. Et j'aimerais dire en conclusion que ce n'est pas seulement moi qui suis le sujet ici, mais aussi mes enfants, qui ont déjà énormément souffert à travers cette scandaleuse propagande. J'étais une femme au foyer, et une mère pour mes enfants. Je n'avais rien à voir avec les camps de concentration, et mon mari ne m'en a jamais parlé. Et je n'ai jamais vu ou entendu parler de tout ce qui a été discuté ici.
En se donnant la mort par pendaison dans sa cellule de la prison bavaroise pour femmes de Eschach, le 1er septembre 1967, Ilse Kor ne se doutait pas que la nouvelle culture du début des années 70 allait s'emparer de son personnage pour en faire un archétype.
There is the fact that her crimes were expressly sexualized.
Les crimes dont elle est accusée sont expressément sexualisés par le procureur et les remarques sont reprises par les médias, avides d'histoires sensationnelles.
Thomas Jardim, historien à l'Université de Toronto, auteur en 2023 de « Le procès d'Ilse Kor ».
So at her trial at Dachau, at her trial in Germany, the prosecution goes to great lengths to talk about the nature of her sex life and they detail her sexual exploits.
Ainsi, pendant son procès en Allemagne, l'accusation se donne du mal pour étaler sa vie sexuelle, détailler ses exploits et ses relations en s'appuyant sur des témoignages à propos de ce qu'elle avait l'habitude de porter. Il y a une réelle intention de sexualiser les crimes effectués, ce qui alimente la légende autour d'Ilse Kor. Les gens deviennent à la fois fascinés par elle et révulsé par ses crimes.
Sort of a puritanical America in the post-war years. This kind of hidden fascination also too with these images of sexual domination.
De plus, dans le contexte de l'après-guerre, dans cette Amérique puritaine, Il y a une sorte de fascination honteuse pour ces images de domination sexuelle et de perversion. Une fascination qui, une fois de plus, alimente le mythe d'Ilse Corr. Un mythe qui se nourrit de l'indignation et du dégoût de la population. En revanche, personne ne s'interroge sur le fait que la presse commente la tenue d'Ilse Corr pendant son procès, se soucie des proportions de son derrière ou de sa poitrine.
You know, Newsweek published a spread about her trial in 1947 that shows on one half of the page concentration camp.
Les articles se concentrent constamment sur son apparence. Par exemple, Newsweek a publié un article sur son procès en 1947. D'un côté de la page, il y avait une photo de prisonnier émacié, une image atroce, et de l'autre, un portrait d'Ilse Corr en maillot de bain. C'est l'image parfaite pour rendre compte de la fétichisation et la sexualisation de la domination que pouvait incarner la figure d'Ilse Corr. Surtout que l'histoire d'Ilse Corr est devenue connue grâce à un film pornographique, Ilse Corr, la louve des SS. Le film est passé à l'époque dans plus de 45 cinémas aux États-Unis et a donné lieu à 3 suites.
1945, somewhere inside Nazi Germany. This is Medical Camp 9. For these women, there is no hope, no escape. For them, there is only pain. And Ilse, she-wolf of the SS.
C'est un mythe. Quasiment du début de son entrée dans l'âge adulte jusqu'à la fin.
Liliane Candel, sociologue et essayiste féministe.
Alors, c'est une femme libre sexuellement, elle et son mari. Et manifestement, l'adultère ne leur fait pas peur. Donc déjà, elle était un peu déviante par rapport à l'image de la bonne femme nazie. Elle avait cette réputation d'avoir une vie sexuelle débridée, y compris avec des surveillants de bloc, en fait, ou des détenus. Elle est cruelle, sadique même. C'est le diable en personne. Il y a un mythe, Ilse Corr, dont des recherches ultérieures ont montré qu'il reposait en partie sur des fantasmes. Et il y a une réalité, Ilse Corr, d'une femme qui probablement avait quelques dispositions à sadiser autrui, à s'enrichir sur le compte d'autrui, éventuellement à mentir, à leurrer ou à tuer des gens. Il y a eu une série de films, le show à porn, ça s'appelait, je crois, que je n'ai pas eu envie de voir, qui, en effet, jouait sur la double attraction-répulsion de la période des camps et des orgies sexuelles.
Le grand public se passionne. Le grand public adore. Voyez les films porno nazis. Les nazis porn.
Claude Quettel.
Il y a eu un grand public dans les années 70. Parce que Ilse Corr est devenue aussi, dans le mythe, elle devient la louve qui fait son choix parmi les hommes. Enfin, donc le nazi porno, qui est une véritable, d'abord qui est grotesque, et puis qui ensuite, selon moi, est une honte, a eu un énorme succès. Donc tous ces mythes-là, alors pour qu'il y ait mythe, il faut qu'il y ait quand même un succès, sinon c'est pas un mythe. Donc tous ces mythes-là sont selon moi, très très dangereux. Mais encore une fois, Ilse Corr n'a pas été condamnée à mort et n'a pas été pendue, alors que beaucoup de nazis femmes, à commencer par des gardiennes de camps de concentration, l'ont été.
Of all the butchers in the Third Reich, none was as ruthless as Ilse, she-wolf of the SS.
It's 50 minutes now, mein Kommandant.
Together with her black widows, she committed crimes so terrible even the SS feared her.
There's but one way. My God, the flesh.
Clovis Gou, journaliste indépendant, cofondateur du label Dirty.
C'est l'inspiration du film de Nazi Spotation qui est le plus connu, qui est Il sait à la Louvre des SS. Et c'est vraiment c'est tous les stéréotypes qu'on a évoqués, c'est-à-dire la matrone hypersexuée, etc., sadique évidemment, qui jouit de la souffrance humaine. Voilà, c'est un monde totalement décadent qu'on nous montre. Et donc avec Il se coche comme un des modèles. Voilà, la femme sadique du camp de concentration. Mais c'est toujours, on est toujours dans le grotesque et dans la caricature. Hein. C'est pas du tout, y a rien d'historique là-dedans. Je pense que personne n'est dupe. La femme est associée à une sexualité débridée. Elle a toutes les tares. Hein. Elle est nymphomane, sadique, masochiste, etc. Elle a toute la panoplie du mal. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Ilsa, la Louve des SS, a été vue également dans les années 70 comme une icône du féminisme. Parce qu'elle dominait les hommes, elle en faisait ce qu'elle voulait, et c'était une femme de pouvoir, en fait. Et donc, il y a eu une frange qui a vu en elle, parce qu'en plus, elle fait des recherches pour montrer que les femmes, dans le film, pour montrer que les femmes sont plus aptes à surmonter la douleur que les hommes. Et donc elle fait des expériences sur les femmes pour démontrer cette théorie.
Toutes ces histoires-là de peau humaine, d'abat-jour, qui ont été pratiquement ruinées.
Claude Quettel.
En ce qui concerne Il se corps, on n'a pas l'éternelle histoire du savon. Mais on a ailleurs ces histoires de savon en graisse humaine, alors en graisse de juif, c'est encore pire, ça, et qui ont été ruinées. Il n'y a pas eu l'histoire des savons. N'a pas. Alors il y a eu peut-être quelques recherches parce que les cinglés de SS, médecins de service, ont forcément fait deux ou trois recherches dans cette direction-là, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a jamais marché, et ça a eu la vie dure. D'ailleurs, on disait à quelqu'un, toi tu vas être transformé en savon. C'était continu. Hein. Donc, moi, je pense que toutes ces légendes, tout ce mythe, et qui encore une fois ne diminue en rien la culpabilité d'Il se corps, à mon avis, sont dangereux, sont très dangereux, parce que d'une certaine façon, alors est-ce qu'ils ont été répandus dans cette perspective-là, attention hein, au complotisme, encore que les complots existent, ça sert le négationnisme. C'est là qu'est le problème, et qui est selon moi un problème très, très, très dangereux, très préoccupant, parce que, à force de raconter des histoires de loups-garous qui, finalement, apparaissent, surtout dans les études actuelles, qui ne sont pas si anciennes, hein, comme des légendes, comme un mythe, on sert le négationniste qui va dire « Ah ben vous voyez, il n'y a pas eu d'abat-jour à peau humaine, mais il n'y a pas eu de chambre à gaz non plus. »
C'était Il se corps, la chaîne de Buchenwald, avec Claude Quettel, Thomas Jardim, Liliane Candel, Clovis Gou, Julien Aubré, Florian N, Annette Viverka, Barbara Netchek et Benoît Cazenave. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Nerima Hussein-Bazic, rescapée de la guerre en Bosnie, spécialiste des crises et des conflits à Sciences Po, et ancienne du TPY et d'Interpol pour ses traductions, ses recherches et ses contacts. Réalisation Rafik Zénine, avec les voix de Benjamin Hu, Raphaël Kraft, Antoine Beauchamp, Mathieu Laurent, Jérôme Moreau-Marron et Anne de Peufeuillu. Coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch avec l'aide précieuse d'Indiana Burkel et Pascaline Bonnet.